7h17, Art Pierry. Voilà la journée que tu attends avec toujours beaucoup d'impatience. Le budget fédéral.
Le budget, Paul, c'est excitant, hein? C'est comme les régates de Valleyfield des comptables. Tu comprends? C'est l'apothéose du bonheur. C'est là que tu connais l'avenir de tes clients, puis l'avenir de ton année fiscale aussi. Mais c'est surtout la grande campagne de relations publiques des gouvernements. Tu sais, c'est là qu'on utilise les fonds publics pour se faire du capital politique. Je vais te dire ce qui va se passer aujourd'hui.
Vas-y donc.
Le ministre des Finances va se lever, va lire son discours. Tout le monde de son bord va l'applaudir et tout le monde va dire que c'est mauvais de l'autre côté. C'est tout le temps ça qui arrive, OK? Mais ce qui est drôle, c'est qu'on sait exactement ce qui va se passer.
Là, tu oublies une petite variante.
Oui.
Quand tu es le parti d'opposition, tu dis voici la veille, là, tu dis voici ce à quoi je m'attends dans le budget. Et évidemment, ça ne sera pas là. Fait que ça te permet le lendemain de dire voyez.
Je l'avais dit.
Vous avez dit ce qu'il y a. Puis là, ils n'ont pas suivi. Puis c'est un budget partisan, c'est un budget électoraliste, tu sais, ces affaires-là.
Comme Michel Villeneuve au 110%, comme je l'avais prédit. C'est un peu ça, tu sais.
Voilà.
Et là, les gens se disent, mais regarde, on connaît nos problèmes au Canada. Vieillissement de la population, pénurie de main-d'œuvre, concurrence mondiale avec l'élimination des frontières, besoin d'investissement technologique, besoin d'investissement en automatisation. On sait que c'est ça. Et là, on nous dit, ah ben là, faut aider les jeunes à acheter une maison, les taux d'intérêt sont trop bas, les maisons sont trop chères, les jeunes n'ont pas accès. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le Québec avait déjà dit, ah, il va faire le régime d'épargne propriété. Finalement, on s'est rendu compte que la mesure fonctionnait pas fiscalement. On l'a oublié dans les méandres des promesses. Mais qu'est-ce qu'on va faire au fédéral? On veut-tu augmenter l'amortissement sur 30-35 ans pour les premiers acheteurs? Est-ce qu'on veut diminuer la prime de la CHL pour les jeunes? Est-ce qu'on veut aider au financement de la mise de fonds? Est-ce qu'on veut augmenter le montant du RAP? Peut-être, on verra. Au niveau des revenus de retraite, est-ce qu'on va faire de l'âgisme au fédéral en disant faut aider les plus âgés qui ont mal planifié leur retraite ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir une retraite à avoir un meilleur retour? On va-tu leur faire un bonbon ponctuel, c'est-à-dire un chèque une fois, ou on va mettre une mesure récurrente? Puis tant qu'à faire des déficits, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec l'allocation non imposable aux familles? C'est le temps peut-être d'investir encore dans les infrastructures en se disant de toute façon, faut investir. Le taux de financement est faible dans le moment, donc pourquoi pas, tant qu'à faire des déficits, investir là-dedans, peut-être. Et là, on parle d'un régime enregistré d'épargne-études adultes. Ça, pas
adulte?
Je trouve ça pas trop fou. Tu sais, il y a des adultes, là, de moment donné, qui sont born again, qui se redécouvrent une vie, puis ils disent, bon, j'ai 35 ans, je vais retourner aux études, ce qui est une bonne chose. Et là, ils disent, ouais, mais comment je vais financer ça? J'ai des enfants, j'ai une famille. Et mais là, on dit, pourquoi ne pas instaurer, pour les gens qui ont besoin de retourner aux études pour se spécialiser, un régime enregistré d'épargne études adultes, c'est-à-dire que on leur permet pendant quelques années de mettre de l'argent de côté pour eux-mêmes, ou qui plus est même, prendre celui des enfants qui n'ont pas été à l'école finalement, puis le garder pour eux, ça pourrait être une solution, et ça pourrait faire en sorte que pendant que les gens retournent aux études, ben ils ont un peu de revenus, qui fait en sorte qu'ils ont besoin de moins d'aide de l'État, donc peut-être moins de chômage et tout ça, donc tu vois, il y a quand même quelque chose derrière ça.
Ok, et ben, là, vas-y, excuse.
Parce que là, je pense souvent au déficit, là. Puis là, c'est sûr que les conservateurs vont dire que les libéraux sont évidemment irresponsables et que Justin Trudeau ne s'est pas compté. Mais ce qui est très drôle, c'est que dans les dernières années, le plus gros déficit, évidemment, il était fait par les conservateurs. Mais eux étaient dans une période de mauvaise période financière. Tu sais, c'était après la crise financière. On avait un déficit en 2009-2010 prévu de 55,6 milliards. Finalement, ajusté, il a atteint 61,27 milliards. Donc, dans les dernières années, c'est le plus gros déficit. Et il a été fait par qui? Par les conservateurs. Mais c'était en période de crise. Les libéraux, à un moment donné, c'est le fun de se faire un petit coussin quand ça va bien. T'sais, donc, c'est là la question, où est-ce qu'on va? Et si on aide les médias, ça, c'est l'autre question, il faut aider les médias. Mais aider les médias, c'est comme ce que Facebook puis Google nous vole, si tu veux, par concurrence naturelle. Nous, on va le redonner aux médias, mais ça règle pas le problème. Comment aider les médias à long terme à être tout seul, à être autonome, si leur revenu n'existe plus? C'est vraiment le gros débat dans le budget aussi.
Bon, on va décortiquer ça ensemble demain matin. Il y a cette idée lancée par une députée de la CAQ là, d'interdire aux mineurs d'avoir accès à des cartes de crédit.
Bon, là, on dit qu'il y en a qui réussissent à avoir accès à une carte de crédit avant 18 ans. Juste vous dire que, normalement, si vous allez à la caisse ou à la banque, si vous avez en bas de 18 ans, vous n'avez pas de carte de crédit. Là. On s'entend, là, faut avoir 18 ans de toute façon, mais il y a des gens qui réussissent à en avoir. Évidemment, il y a deux façons d'aider votre enfant à avoir une carte de crédit. Un, vous avez une carte prépayée, qui est comme une carte cadeau, c'est-à-dire c'est une carte de crédit, mais qui a de l'argent dessus. Donc ça, c'est pas dangereux, c'est le parent qui met de l'argent ou l'enfant lui-même. La deuxième catégorie, c'est tu donnes à ton enfant une carte de crédit, mais c'est toi qui garantis le compte, donc tu peux avoir aussi l'état de compte. Et ça, c'est une bonne façon de commencer, je trouve, pour les parents. Tu donnes accès à une carte de crédit à ton enfant, mais tu as le relevé chaque mois et tu le contrôles. Moi, je connais un père qui a fait ça une fois. Puis là, sa fille, à 16 ans, évidemment, elle s'est mise à dépenser. Le père contrôlait la chose. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Sa fille, elle a acheté une robe. Elle est revenue à la maison. Il a regardé le compte. Il a dit, « T'as pas les moyens d'acheter ta robe. Retourne au magasin. Va reporter la robe. » Et il dit, « J'avais pas les moyens de l'acheter. » J'avoue que c'était un peu gênant, mais c'était un apprentissage. Et c'est là la question. Le crédit existe dans notre société. T'as beau retarder à 18 ans d'avoir du crédit, 2 ans de plus, 2 ans de moins, l'outil est là. C'est comme le marteau. Mon père m'en a mis un dans les mains quand j'avais 4 ans, Paul. C'est sûr que j'aurais pu me faire mal. Mais j'ai appris à frapper un clou à 4 ans, tu comprends? Donc, c'est pas l'âge qui est important. C'est le comportement avec le crédit. Donc, surveiller ton enfant et l'aider, c'est une chose. Mais d'empêcher quelqu'un d'avoir du crédit à 16 ans, c'est comme retarder son bonbon 2 ans et le rendre, après ça, tout aussi incapable de le gérer. T'sais, on a en plus un cours d'éducation financière au secondaire à 16 ans où les gens apprennent c'est quoi les notions de crédit maintenant. C'est pas merveilleux? Mais moi, j'ai vraiment une solution pour ça. Tu fais une carte de crédit noire, en as-tu vraiment besoin? OK? Imagine, tu donnes ça, toutes les cartes en bas de 18 ans, t'écris ça sur le message. T'as rendu compte comment ça marche très fort?
Faudrait que tu rentres 3 NIP pour être bien sûr que tu veux faire
c'est
la
ça,
transaction.
C'est ça, 3 NIP. Puis après ça, il y aura un message encrypté. Ton père recevrait un message. Puis faudrait qu'il accepte ou ta mère qu'il accepte la transaction. Puis, tu sais, tout ça pourrait être fait la promotion par Monsieur Duquette du Tac au Tac, tu comprends?
Oui.
Ça serait parfait. Mais pour vrai, tu sais, je pense que dans le moment, on veut faire du capital politique là-dessus peut-être, mais que c'est un outil, le crédit. C'est ton ADN de consommateur. Faut que tu te bâtisses un dossier de crédit pour être quelqu'un dans la société. Cette valeur, on est faite comme ça. Et qui plus est, tu sais, les jeunes milléniaux, qu'est-ce que tu penses qu'ils font dans la vie? Ben, ils achètent par Internet. Si tu achètes par Internet, la carte de crédit est un outil parmi tant d'autres. Et ça donne une certaine protection. Et c'est aussi une façon d'avoir de l'argent en cas d'urgence. Si jamais ton compte de banque fonctionne pas, tu as au moins le crédit. Donc, tu peux payer aussi des taxis au lieu de prendre l'alcool puis le volant, tu comprends? Oui, tu peux prendre le débit, mais le crédit, c'est une autre façon de payer. Donc, faut voir aussi les bons côtés. Le crédit est méchant, mais quand on sait l'utiliser et profiter du 21 jours de financement gratuit des compagnies, ça, c'est merveilleux, Paul. Te financer comme jeune à 16, 17, 18 ans avec l'argent des autres et en payant ton solde à la fin du mois, tu te dis « Ah! J'ai profité des banques et du système en laissant les autres payer. » Et ça, c'est merveilleux.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut. 7h25.